because you lied, because he took you for a ride, I'm because time is on his side, and because I want you, I want you, yes, I want you so bad.
Merci Monique au 01 43 71 89 40 sur Radio Libertaire. Radio Libertaire, c'est la radio de la Fédération anarchiste et Urbi comme Orbi, sans sponsor ni publicité. Alors pour vos cartes de soutien, vos cartes d'auditeurs, une seule adresse, librairie Dimon Libertaire, 145 rue Amelot dans le 11e arrondissement. On est bien sur Onde de Choc, le dernier comptoir où l'on cause, l'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir, y compris celle d'Hans Bellmer. Hein, et puis celle du Marquis de Sade qui va nous rejoindre avec Rose Keller dans quelques instants. Et bien sûr, en cabine, Monsieur Coda, Joseph, nous avons Monique, sans laquelle rien n'est possible. Hein. Voilà. Donc aujourd'hui, Joseph Nozavsky pour son Hans Bellmer. Hein, aux éditions Douro, et malheureusement, M. Jacques Coda, pour ce très mauvais livre, Flore Belle, aux éditions Toujours,
toujours avec cet accueil magnifique, à bras ouverts. J'aime.
Avant qu'on commence, M. Coda, quand vous êtes venu ici, j'avais cru vous faire plaisir, figurez-vous.
Oui, mais vous faites toujours plaisir.
Je connais un peu vos goûts et tout, et j'étais venu avec Ella Fitzgerald.
Oui.
Là, vous avez fait légèrement la moue.
Oui, j'ai
l'air hautain en me disant, tu comprends, c'est la, parce qu'on se dit tout de temps en temps, c'est un peu la mama, moi je préfère Billy Holiday.
Oui.
Alors, je tiens à vous dire que j'ai écouté vocalement les deux, nous ne serons encore une fois pas d'accord.
Oh là là là.
Mais comme vous avez besoin, quand vous turgessiez un peu les oreilles, turgessiez fortement les esgourdes, on va faire un petit voyage avec Billy aujourd'hui, ça vous va? Non,
là,
enfin,
faites,
pas
là,
mal.
Là,
hein,
vous faites vraiment plaisir.
Alors, Hans Bellmer, c'est un beau livre. Un beau livre qui est bien fait, qui est très bien fait. Il y a toute une partie graphique, bien sûr. Il y a un texte. Vous êtes mis à trois pour le faire, c'est ça, Joseph?
À quatre.
À quatre, oui, il y a Hans Bellmer.
Non, mais je veux dire quatre.
Avec Bellmer, à cinq, il y a Joseph, il y a Roger Mathieu, et il y a deux écrivains qui ont fait la postface, c'est-à-dire Étienne Ruot,
ouais,
et moi-même.
D'accord.
Voilà, plus Bellmer. Donc.
Plus Bellmer.
Voilà, nous sommes cinq.
Alors,
Bellmer, Nora Mitrani.
Oui, en plus.
Joseph, entre toi et moi, avant qu'on commence,
oui,
pourquoi ces anagrammes en couverture?
Parce que justement, je voulais évoquer la qualité, la multiplicité de tous ces dessins. Donc, j'ai pris son nom et je l'ai multiplié pour montrer les diverses facettes de son œuvre. Parce que c'est pas que un certain sujet, mais il y en a multiples. Et lui, c'est un personnage multiple. Donc, je trouvais que voilà, ce graphisme évoque justement la largeur, la grandeur, la qualité de toute son œuvre. Donc, je pensais que c'était.
Mais il y a un rapport entre Nick Hazern et l'anagramme.
Et en même temps.
C'est surtout ça.
En même temps, donc, ça évoque l'anagramme que Nora Mitrani, avec Joe Bousquet, ont pratiqué avec Belle-Mère, d'abord. Et c'est Belle-Mère qui a transmis à Onika, quand ils se sont connus en 1953, l'idée de l'anagramme, et on sait très bien, après, Onika a été très très performante dans, dans cet anagramme-là. Donc voilà, évoquer l'œuvre, évoquer la mythification, évoquer le côté labyrinthique de chaque individu, donc par ce graphisme-là.
Alors moi j'ai fait un petit tour de table de gens que je connais de générations différentes sur Belle-Mère, et encore plus sur Onika, Onika Zern, énormément de problèmes pour le situer. Pour les situer. Et moi-même, je connais un tout petit peu la situation, là, je me suis aperçu, en lisant la bio d'Étienne Ruault, là, à quel point ils étaient tous les deux nés dans le fascisme.
Ben oui.
Dans le nazisme.
Oui, en Allemagne.
Oui, ils sont en plein dedans, tous les deux.
Oui.
Hein? Et lui, qui est plus vieux qu'elle.
En 2 et elle 16.
D'accord.
Donc,
on va tenter un peu de notice biographique. Lui est né en 16.
Lui est né en 1902.
Ah, 1902.
Et elle, 1916.
D'accord. Et il est né, lui, il est allemand ou polonais, lui?
Lui, il est né en Allemagne.
Il est en Allemagne.
Et tous les deux sont nés en Allemagne.
D'accord.
Donc, ils sont allemands.
Et ils tombent directement dans la montée du nazisme.
Voilà, ils sont au début.
D'accord. Et lui, il commence à travailler.
Après son bac, donc, d'abord, son père l'envoie travailler pour qu'il apprenne ce que c'est que le travail. Et après, donc, il part donc à Berlin. Et à partir de Berlin, bon, il est pris par Georges Grosz. Et là, il va commencer à participer dans l'édition, où il va faire de la d'édition de la couverture et tout. Et même lui-même, après, il crée un petit atelier personnel pour faire de l'édition.
Et il fait du dessin industriel aussi. Hein.
Comment ?
Il fait du dessin industriel.
Il fait du dessin industriel.
Parce que son père,
il voulait qu'il soit ingénieur comme lui.
Voilà.
Mais au bout d'un an, il arrête ses études, parce qu'apparemment, c'est pas son orientation, et il se lance complètement, donc, avec l'aide de Georges Grosz, dans l'édition, dans le dessin.
Mais Jacques, il tombe en plein dans ce qu'on appelle l'art dégénéré.
Oui, absolument.
Après, voilà, son œuvre est qualifiée par le pouvoir de l'art généré, effectivement. Et c'est pour ça qu'il arrête de travailler. Et il fait donc cette fameuse poupée.
Alors c'est 34. Ça, là on est en plein dedans, parce qu'il choisit bien l'époque aussi, hein. On est en 34.
Voilà.
Oui, c'est le début de la fin, oui.
Allez.
Tout à fait.
On est en 34.
Et puis c'est la poupée de Kokoschka qui
alors vas-y, tiens, ouais. Parce que...
Il rencontre la poupée de Kokoschka, et donc ça l'inspire terriblement, et il commence à faire des photos, hein. Il commence par une série de photos pour assembler sa poupée, s'il y en a. Il n'y a pas 40 000 exemplaires de la poupée, il y a une poupée qui sera modifiée plus tard. Voilà, il y a trois poupées, en fin de compte, chez les Allemands. Il y a Dürer aussi, qui avait une énorme poupée dans son atelier. Je crois qu'on en parle dans le bouquin. Et donc Kokoschka, qui c'est un choc, hein, pour Belle-Mère.
C'est combien de temps? C'est 20 ans auparavant qu'il y a celle de Kokoschka environ?
À peu près, oui.
Hein, c'est ça, oui.
Ouais. Il y avait une expo, la Kokoschka, où étaient montrées des photos de la fameuse poupée de Kokoschka.
Ça, c'est Dürer.
Ça, c'est Dürer, tu l'as? Ouais. Et Dürer avait ça dans son atelier, qui était une espèce de mannequin, on va dire.
Alors, dans le tour de table que j'ai fait, les dessins de Belle-Mère, certes, d'aucuns les connaissent quand même, faut pas exagérer. Par contre, ce qui est vraiment connu, c'est la poupée.
La poupée, oui, elle a fait scandale.
C'est la poupée. Hein.
C'est, voilà. C'est fondamental dans son œuvre.
Voilà.
C'est pas le départ.
Et elle est exposée à Beaubourg.
Et pourquoi cette poupée est importante, tiens?
C'est un peu le point de départ. C'est là où il expérimente l'anatomie, quoi, on va dire, par ces différents.
Oui, mais ça dépasse l'anatomie, parce qu'en allant parler de Lacan hors antenne, oui. Tous les psys vont se pencher là-dessus. Hein.
Oui, mais on est dans ce que Deleuze appelait l'indiscernable, c'est-à-dire entre l'être et la viande, quoi. C'est ça, hein, entre la métaphysique et l'anatomie, oui, c'est ça. Hein. Deleuze parle de ça à propos de Bacon, mais c'est pareil chez Belle-Mère. Hein. Et là, tu demandais la couverture, mais chaque lettre est un corps, hein, chez Belle-Mère. Il y a ça aussi dans cette couverture. La lettre et le corps. C'est surtout le corps qui est important chez Belle-Mère et ce qu'il en fait surtout. Et le lien entre la vie et la mort aussi.
Mais en parlant du corps, je suis content que Joseph soit là, parce qu'on ne se rencontre pas dans une galerie ni dans une librairie. Tu as été son kiné. Ce qui est rare, ce qui est quand même rare. Et quand tu le rencontres en 69, en quelle année tu commences?
En 69, qu'est-ce qui est rare?
Ah bah, attends, ce qui est rare, c'est que tu... Alors, déjà, que tu sois kiné, et deuxièmement, que tu tombes sur belle-mère, troisièmement, que tu te rendes compte que belle-mère, c'est quand même belle-mère. Parce que moi, je connais des gens qui vont voir des kinés, ils peuvent être Arthur Rimbaud, le kiné va s'en foutre complètement. Hein.
C'est-à-dire, moi-même, depuis l'enfance, je dessine. Et donc, je suis sensibilisé au dessin, à l'art. Et donc, avoir en face de soi un créateur, ben, on ne peut pas être indifférent. Et donc, du coup, le mariage est plus prononcé, et plus affiné, etc., etc. Et d'autant plus quand on se retrouve avec un personnage comme belle-mère qui est grandiose.
Quand tu y vas, la première fois, tu sais qui est belle-mère ?
Justement que non.
Alors voilà, c'est ça.
En 69, je ne connais pas belle-mère. Et il est hospitalisé dans mon service. Ouais. Et une fois hospitalisé, il me demande de poursuivre la rééducation chez lui.
C'était, sans indiscrétion, c'était une rééducation de quoi ?
Ben, il a eu une hémiplégie, paralysé à gauche.
D'accord.
Tant mieux, parce qu'il a la main droite libre.
D'accord.
Et il n'est pas touché par l'aphasie, parce que les gens qui ont une paralysie à droite, le cerveau gauche, il y a les centres de la parole, de la communication. Et c'est ce qui fait dire à certains qu'ils ne parlent pas, qu'ils ceci, ce qui est complètement faux. Il n'est pas aphasique, il parle normalement. Et il a le bras droit qui fonctionne. Donc il peut encore dessiner. Mais il ne peut plus graver, parce qu'il faut les deux mains.
Il habitait déjà rue de la Plaine ou pas ?
Oui.
D'accord.
Il est rue de la Plaine en 65, 1905. De la rue Mouffetard, il arrive en 65, rue de la Plaine. De 65 jusqu'en 75.
Oui. Donc, la rue de la Plaine, c'est dans le 20e arrondissement.
À côté de la Place de la Nation.
Moi, quand je me promène dans le quartier, bah, je ne peux pas m'empêcher, bah, on a déjà parlé avec Jacques, de voir s'il y a un balcon. Il y a un balcon. Alors lui, on va couper, après on va revenir. Hein. Lui, il finit hémiplégique.
Oui.
Il finit hémiplégique, c'est-à-dire qu'il ne peut pas bouger.
Si, quand on est hémiplégique, on peut bouger.
Il peut marcher.
On peut marcher.
Et donc, il peut marcher.
C'est-à-dire que s'il récupère son membre inférieur suffisamment, il marchait avec une canne. Et le samedi, par exemple, on allait faire un saut dehors.
D'accord. Et Unica fait des allers-retours en maison psychiatrique.
Oui.
Elle est même en contact avec le docteur Ferdière, celui qui a soigné. Et puis là, c'est là que ça va mal tourner.
Oui.
Et elle va se foutre du balcon.
Oui.
Et lui, est dans la pièce au fond, il n'entend rien, c'est ça ?
Le matin, ils ont une aide-soignante qui s'appelle Madame Catherine. Elle va faire des courses. Lui, il est dans la pièce du fond, dans la chambre. Elle en profite, qu'il n'y ait personne, lui, alité, de passer dans le séjour et d'aller sur le balcon tranquillement. Et à ce moment-là, effectivement, elle se défenestre. Mais c'est pendant l'absence de Catherine et belle-mère qui est au lit, où elle profite de ce vide pour passer à l'acte, en quelque sorte. Quoi. Et ça, c'est en 70. Donc.
Quelle terrible histoire. Dans ce livre-là, Anse Belle-Mère aux éditions Douraud, il y a des photos d'Unica Zorn.
Il y a une photo. Oui.
Alors, Monsieur Coda, qui est un personnage très intéressant culturellement, voulait savoir si c'était une belle gonzesse. Unica, moi je la trouve absolument superbe.
Moi, je la trouve très belle, mais bon.
Ah non, mais attends, la dernière fois, c'est ce que je racontais hors antenne, là.
Ouais.
Et il y avait une Eve Morcrette qui était à cette antenne, qui fait des très belles photos de nu. Et brusquement, je lui dis, comme ça, je parle du livre qui vient de sortir, et je lui dis, elle est très contemporaine. Elle est très. Et je m'aperçois que le mot n'est pas juste, parce que c'est les années 70, tout ça, hein, mais elle est très présente.
63.
Elle est très présente, très. Tu la verrais à la terrasse d'un café.
Tu la dragues.
Voilà.
Oui, mais moi, à l'époque, quand j'ai connu dans 69, malheureusement, l'âge étant là, touchée par la maladie, et elle fumait sans arrêt. Donc, elle se laissait aller. Donc, les cheveux des griffes.
Oui, tu m'avais dit, oui.
Donc la beauté, malheureusement, avec les années, disparaît. Malheureusement.
C'est quelqu'un qui écrit, qui a des très beaux poèmes.
Par contre,
est-ce qu'elle a une réputation ou pas ? Est-ce qu'elle est connue ou pas ? Ou elle a une réputation à l'époque ?
Elle est connue à travers ses dessins, déjà, puisque en 63 au point cardinal expose des choses comme ça, mais au point de vue texte, elle est quand même moins connue, parce que Sombre Printemps et Maison Vacances à Maison Blanche c'est sorti un petit peu après, quoi. Donc elle est pas très connue.
Alors que Belle-Mère est très connue, lui.
Alors lui, dans les années 60, ça y est, Belle-Mère est partie. Il y a des expositions partout, des éditions, donc oui.
On va écouter un peu de Billie Holiday, puis on va tu vas faire un peu le critique d'art, si tu es capable, monsieur Reda, de me parler un peu du trait de Belle-Mère.
Du trait d'esprit de Belle-Mère.
Days have grown so lonely. For you I cry, for you the only. Why haven't you seen me? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing. I'm wondering why it's me you're wronging. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it. It's hard to conceive it that you'd throw away. Are you pretending? It looks like the ending, unless I can have one more chance to prove, dear, my life a hell you're making. You know I'm yours for just the taking. I'd gladly surrender myself to you, body and soul. That's gray and cold. Unless there's magic, the end will be tragic. An echo, a tale that's been told so often. My life revolves about you. What earthly good am I without you?
Eh ben merci Monique, toujours au 01 43 71 89 40 sur Radio Libertaire. Effectivement, nous avons ici la revue Empreinte numéro 34. C'est Claude Brabant qui vient assez souvent ici, comme ça. Tu as été la voir. Elle t'a publié un dossier Hans Belle-Mère. Et là, il y a effectivement cette photo qui est magnifique, déjà par le regard de Belle-Mère. Et tu m'as dit hors antenne, on voit, il y a un balcon, il y a une vitre. Et il y a un impact, non pas un impact de balle, mais un impact de...
Cendrier.
Qu'est-ce que c'est ?
Un impact de cendrier, apparemment. Onika était en méforme, et elle a bazardé donc, le cendrier. Et là, on voit l'impact du truc. Et derrière, le balcon. Photo, on voit l'impact de la vitre et le balcon duquel elle s'est jetée, quoi.
D'accord. Qu'est-ce qu'il devient après la mort d'Unica, Belle-Mère ?
Belle-Mère, il est très profondément touché par cette disparition. Il est complètement défait. Il veut se suicider. Il me demande que je lui achète un revolver. Que je refuse, bien sûr. Mais il a une partie comme ça de temps où il est, il parle plus, il fait rien, il est dans la tristesse totale. Et en 1970, heureusement, il a la production de ses gravures où les éditeurs viennent apporter une série de gravures qu'il signe et tout, et la vie reprend son cours. Et il vit, il continue à survivre. Que faire ?
Il meurt combien de temps après, lui ?
En 75.
75, d'ailleurs, 6 ans, 5 ans après.
En gros.
D'accord. Quand on regarde, moi, quand on regarde les dessins, aussi bien sur Empreinte que sur ce livre, là, Hans Bellmer, c'est un dessinateur merveilleux.
C'est un des plus grands dessinateurs de toute l'histoire de l'art. Hein. Ça, avec Dürer, on parlait de Dürer tout à l'heure et sa poupée. C'est du niveau de Dürer. C'est un dessinateur qui a un trait. On parlait aussi de sa formation de dessinateur industriel, qui a sans doute un peu joué, mais tous les dessinateurs industriels ne deviennent pas des Hans Bellmer. Non, c'est remarquable. C'est un trait d'une précision. C'est de la gravure quasiment. C'est d'une précision presque diabolique. Et il n'y a pas de. Pratiquement pas de repentir, c'est un trait d'une sûreté. C'est magnifique, quoi. C'est magnifique. J'en suis jaloux, moi qui fais un peu de peinture.
C'est un trait automatique et continuel ou pas ?
Je pense.
On a l'impression que c'est continuel.
C'est qu'il y a une espèce de continuité et de virtuosité. C'est pas le Paganini du dessin, quoi. C'est somptueux. C'est somptueux. Ouais.
Je rajouterai un mot à la qualité dont on vient de parler. Il y a les sujets, tout le monde imaginaire. C'est pas un simple dessin. Il va inventer, par exemple, il va modifier la courbure de l'avant-bras ou la courbure d'une jambe. Il va rajouter quelque chose. Donc, les sujets, la manière de présenter, c'est là qu'il y a une richesse supplémentaire. Parce que dessiner d'une manière classique, il y en a plein qui dessinent. Mais lui, il va rajouter quelque chose de très personnel. C'est ça que je trouve en plus qui est extrêmement magnifique à regarder. Quand on regarde des dessins, on s'ennuie jamais. Qu'est-ce qu'il va inventer ? Qui va-t-il mettre à côté de qui, etc. Et donc, c'est ça que je trouve... c'est toute une histoire. Quoi.
Joseph, tu ne sais pas qui c'est, tu le traites, tu as un traitement pour lui. Bon, et c'est quoi ? C'est une amitié qui va naître ou c'est quelque chose qui va rester de thérapeute à patient ?
Le côté thérapeutique est... existe, bien sûr, parce qu'il faut, mais il y a toute une relation profondément amicale. Je le rencontre à l'hôpital en octobre.
C'est quel hôpital, tiens ?
Lariboisière.
Voilà.
En décembre, il m'offre un livre de luxe, les dessins avec la préface de Kotelinski, avec une gravure dedans, 2 mois après. Donc, ça sous-entend une qualité relationnelle. Et moi, je suis là pas que pour l'aider physiquement, mais aussi moralement. À un moment donné, il est bien sûr très déprimé, préoccupé par l'avenir. Et comme il y a beaucoup de gravures qui sont éditées, rapidement, je fais le calcul en disant, voilà, ça va vous rapporter ça. Donc, avec les gravures qui sont éditées, vous en avez pour 10 ans. Ça veut dire que d'ici 10 ans, vous pouvez vous reposer mentalement, quoi. Voilà. Et donc, je le soutiens au maximum. Je vais au Quartier Latin lui dire, bon, là, il y a un faux, là, il y a les gravures qui sortent. Je l'informe sur ce qui se passe, sur les expositions. Donc, il n'y a pas qu'une relation.
Tu arrives à voir les faux et les vrais Bellmer ?
Ben oui, parce que je vois la signature.
D'accord.
Ça se voit au niveau de la signature.
Et chez lui, ça défile. Tout à l'heure, on parlait hors antenne de Nora Mitrani. Oui. Donc, il y a quand même tout un monde qui va défiler chez lui, vu que c'est quelqu'un qui a une réputation.
Oui, il y a les... Il y a les Visa, Petit, Moujeska, il y a Cécile Reims, il y a Duprat, un ami, donc les gens viennent, et sont les psychiatres de famille, quoi. Oui. Ben oui, parce que comme eux, ils ne sortent pas beaucoup, ou pratiquement pas, donc c'est les gens plutôt qui viennent chez eux.
C'est quoi le rapport, puisque monsieur, vous êtes permis, monsieur Jacques Coda, d'écrire sur Sade ?
Avec Sade, oui. Pas sûr, mais presque, ou en dessous de Sade, mais pas sûr. Mm-hmm. Le rapport Bellmer-Sade ?
Oui.
Oh là là, c'est presque un rapport logique. Ouais. C'est le rapport au corps, oui, chez Sade, qui est... Je fais quasiment pas de différence entre Bellemare et Sade, d'ailleurs. Parce que Bellemare dessine comme ça, décrit, et vice-versa. Voilà. Donc, et d'ailleurs, je parle de Bellemare, je crois, dans mon Sade, et je parle dans la postface de Sade dans Bellemare. Je les mets dans le même bateau. Il y en a un qui tombe à l'eau, mais non, aucun des deux ne tombe.
Il y a une très belle citation de Bellemare où il dit « Je sais la beauté par peur ».
Oui.
C'est magnifique, ça.
Tout à fait. Ouais. Et il y a aussi cette phrase de Bellemare qui est « Une figure humaine est la recomposition d'un carnage. Mmh. » Là, nous sommes dans le Sade.
Et c'est dans le Sade.
Oui. Et là, nous sommes dans ce que tu disais sur justement ce dessin qui, effectivement, est une figuration parfaite, mais une recomposition également qui touche à la représentation de la mort, souvent. Hein, son érotisme est lié, comme chez Georges Bataille ou comme chez Sade, à l'idée de la mort.
Ouais. Il a illustré des gens. Bellemare ou
Bousquet,
pas
Bousquet.
Joël Bousquet. Mm. Bellemare a illustré Bousquet et qui encore?
Sade.
Il a illustré Sade, oui, il faut peut-être le préciser.
Et Bousquet, dont il était l'ami. Hein. Ils avaient une relation très compliquée. Je lisais il y a peu de temps que Bousquet, qui n'avait plus de relations sexuelles, vu son état, voulait devenir un peu l'amant de Bellemare. Il voulait que Bellemare s'occupe de lui. Voilà, mais ça ne s'est jamais fait. Mais bon, ils sont restés très, 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 très amis.
Oui, mais Bousquet a eu quand même des femmes qui venaient le visiter aussi. Donc,
oui, mais de façon...
Il y avait du sentimental. Hein.
Oui. Mais il enviait la virilité de Bellemare.
Vu son état, oui. Bousquet, ça devait être quand même difficile.
Et donc, ils sont connus aux environs des années 45, d'accord, avec Nora Mitrani. Et c'est là qu'ils ont fait à trois des anagrammes.
Ah ben voilà les anagrammes.
Oui.
Voilà, ils sont là.
Démarrage des anagrammes
sont cités
de Bellemare, c'est avec Nora Mitrani et Bousquet. Et donc...
Jacques, puisque tout à l'heure on est passé rapidement sur le, on va arriver à Sade là, oui, sur la poupée de Bellemare. Qu'est-ce qui fait que au niveau de psychanalytique, entre guillemets, il y a tant de gens qui se sont interrogés dessus sur le rapport au désir, sur le rapport à tout ça.
Ils se sont interrogés aussi sur et aujourd'hui peut-être encore plus davantage sur cette espèce d'idée de la femme qui paraît scandaleuse, quoi. C'est un peu
parce qu'il fait scandale, Bellemare.
Il fait scandale.
Et pourquoi il fait scandale?
Pour ça. Comme Picasso fait scandale, comme Gérard Depardieu fait scandale. Mmh. Pour les mêmes raisons.
C'est quand même moins lourd, hein. C'est quand même moins lourd, Bellemare, que Gérard Depardieu. Hein. Parce que là, on est vraiment dans le lourdingue.
Tu parles de la viande.
À tous les niveaux.
Non, c'est des gens qui font parler leur corps. Donc, quand le corps parle, ça dérange terriblement. Surtout que le corps de Bellemare, en plus, il est ambigu. Il est à la fois masculin et à la fois féminin. C'est ça qui fait scandale aussi.
Elle est où, la poupée, là, actuellement?
Au Beaubourg.
Elle est à Beaubourg, d'accord.
Elle a été exposée pendant longtemps. Parce qu'à l'époque, on lui avait proposé en privé que quelqu'un la jette. Alors, soit il vend, il a de l'argent, et on lui a conseillé plutôt de le donner à l'État, parce que là, elle serait prise en charge par un organisme qui, avec la restauration et tout, et elle serait vue du public. Alors qu'en privé, elle ne serait pas vue du public. Donc, il a choisi cette voie-là. Et donc, c'est Beaubourg qui l'a, qui a été exposé.
Il n'y a qu'un seul exemplaire.
Donc, pour la poupée, moi, personnellement, je serais tenté de dire qu'il n'y a qu'une seule poupée. D'accord. En ce sens que la première manifestation de la construction de cette poupée en 1934, le tronc est d'un seul morceau. Et quand on regarde par le nombril, il y a tout un disque qui déroule, hein, des paysages, une formule. Et c'est en voyant Dürer qui, lui, a utilisé des boules pour signifier l'articulation et de donner la possibilité de se mouvoir, qu'en mettant une boule au niveau du ventre, ce tronc était plus amovible. Et donc, la première poupée disparaît pour une version différentes, avec des boules. Mmh. Et donc, c'est la seule.
Mais je veux dire que c'est pas du tout comme la pissotière de Duchamp, où il y a je sais pas combien de...
Non.
Et donc, il y a simplement cette poupée qui est là, qui est à Beaubourg. Après, bon, il a fait en 72 un dessin avec... Il a demi-poupée. Mais c'est comme ça, c'était une construction que lui-même n'a pas faite. Hein. Mais il n'y a qu'une poupée, avec une version différente de deux paires de jambes. Il a repris des éléments de la première pour les mettre dans la seconde version. Donc je parlerai plutôt d'une deuxième version. Et d'une poupée, pour moi, il n'y en a qu'une seule, puisque la première, elle a disparu.
Tu sais qu'une des phrases majeures de, je crois que c'est elle, hein, si c'est pas elle, je vais me faire, d'Annie Lebrun par rapport à ça, c'est que ça a été le premier à vraiment mettre le corps dans la littérature.
Bien sûr. Hein? Ce qui a été mon objectif aussi dans Flore Belle, mais de mettre mes corps, parce qu'il y a plusieurs corps, hein. J'ai plusieurs corps à mon arc.
Ton arc, oui, d'accord.
La plaisanterie est très bonne. Et pour revenir à la poupée, Kokoschka, lui, a détruit sa poupée.
Il l'a décapité.
Oui, c'était l'effigie d'une femme dont il était amoureux. Et qui s'est, voilà. Et voilà, bah, absolument, la fameuse. Et donc, il l'a massacré dans un jardin, tu connais l'histoire. Et il n'a pas fait comme belle-mère, qui effectivement, lui, l'a modifié. Je crois que cette poupée apparaît dans un film de Clouzot. La poupée de belle-mère, dont j'ai oublié le titre.
L'intérêt supplémentaire de la poupée pour sa connaissance, etc., c'est qu'il en a fait rapidement des photos. Mmh. Et donc, il y a toute une collection de photos qui ont été éditées donc, dans la revue Minotaure.
Exactement. C'est même le point de départ, les photos.
Donc, du coup, c'est pas la poupée unique que peu de gens le voient, mais il y a une édition avec une multiplication de positions avec la poupée, des démembrements et tout. Donc, il y a une connaissance de la poupée à travers donc, les photos dans le groupe surréaliste. Et aujourd'hui, il y a un livre même qui est édité sur les photos, uniquement. Voilà. Donc, c'est ce qui amène à une meilleure connaissance de la poupée, et non pas...
Alors, aux éditions de Tin Bad, Flore Belle, Jacques Coda, c'est bien vous, monsieur ?
Je crois.
D'accord.
Je crois, j'ai des doutes parce que je...
Historiquement, Jacques Coda, oui. Flore Belle, il y a quelqu'un qui l'a écrit avant, vous ?
Oui, c'est monsieur de Sade qui avait, d'ailleurs, pratiquement, du moins, on ne sait pas, puisque le manuscrit a disparu, puisque, comme je l'explique, à la mort de Sade, le fils de Sade, étant très mécontent de la réputation de son père...
On sait ce qu'il est devenu, son fils ou pas ?
Je ne sais pas, il a fait des enfants, puisqu'il y a toujours un marquis de Sade, du moins.
D'accord.
Je crois qu'en plus, on parle du marquis de Sade, mais il était comte, le marquis de Sade, il était réel, le marquis est resté. Oui, il y a des descendants, d'ailleurs, j'écris dans les cahiers de Sade, et le descendant de Sade est partie prenante des cahiers de Sade. Et donc, il a tout cramé, hein.
Il a cramé
Flore Belle.
C'était sur un rouleau, c'est ça ?
Non, le rouleau, c'est les 120 journées.
Ce
qu'ont été, elles, perdues à la Bastille, lors de la prise de la Bastille, et retrouvées au XXe siècle en Allemagne.
Donc il n'y a aucune trace de...
Non, il y a que des notes, il y a quelques notes qu'on a retrouvées. Je ne sais, et puis, donc, je me suis appuyé sur ces notes pour écrire tout à fait autre chose, puisque je ne parle que de moi, en gros.
C'est pas la première fois.
Non, ça c'est la mégalo...
Je suis qui, le Juliette Héloïse.
Voilà.
Chez Douro, il parle que de lui.
C'est un autoportrait.
La première ligne de Flore Belle, c'est entrer au château de Siligne à l'âge de 17 ans.
C'est vrai.
C'est quoi le château de Siligne?
Ah, c'est le château de 120 journées où les passions sont déclinées au fur et à mesure de leur importance. Il y a des passions simples et plus au fil du temps et de la lecture, elles deviennent de plus en plus compliquées. Et comment dire, tu as vu le film de Pasolini?
Mais on va en parler.
Donc de plus en plus compliqué. Et j'en reste à compliquer.
D'accord. On va écouter un peu de Billy parce que t'as besoin d'érection.
Voilà, c'est ça. Là, parce que
et oui. Puis on va plonger là-dedans. On va revenir après sans aucun problème.
Ils sont liés de toute façon.
Merci, Monique.
your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart, so why
Bon, puisqu'on est dans... Merci Monique, hein, toujours au 01 43 111 89 40 sur Radio Libertaire, ben, puisqu'on est sur avec Flore Belle, édition Tinbad Jacques Coda. Dans les années 80, il y avait une très belle revue qui s'appelait La Crécelle Noire. Et dans cette Crécelle Noire, on a republié des lettres de Sade 1787 qu'il écrivait à sa femme. Et ces fameuses lettres, qu'on appelle ça le langage des oiseaux, tu sais, ce sont une lettre civile. Mais en même temps, c'est codé. C'est codé. Donc, tu as la première phrase, c'est « J'ai une envie de vous gronder étonnante, cette manière dont vous enfilez, qui de 10 mots est affreuse et en vérité, donc c'est très civil quand ça passe à la censure. Et quand tu reprends en diagonale, ça donne « J'ai une envie de vous enfiler, qui est de 10 mots, et qui passe par tout ce qu'on peut imaginer, par tout ce qu'on peut croire. Ce n'est pas étonnant depuis le temps que je ne vois pas de femme. Vous imaginez bien que je dois être très ulcéré de vos conduites, en train comme une bête, comme un âne, comme etc. »
C'est magnifique.
C'est toute la vie d'enfermé de Sade, voilà. Et c'est une très bonne revue. Hein. Donc, je répète, c'est La Crécelle Noire. Et il y a Gilbert Lely. Je ne sais pas si tu vois qui est Gilbert Lely.
Oui, je vois bien.
Qui a fait un graphique des orgasmes de Pauline Bonaparte médiqué durant 13 minutes par le général Louverture.
Oh, c'est magnifique.
C'est magnifique, hein, voilà.
Lely, le grand biographe de Sade. Ouais, ouais, ouais.
On est en plein dans le sujet.
Tout ce qu'a écrit Sade est amour, a dit.
On est en plein dans le sujet.
A dit Lely.
Mais oui. Et puisqu'on est dans le sujet, et on va descendre dans Flore Belle, là, un petit quelque chose au niveau idéologique ou politique. Tu sais très bien qu'il y a eu des accusations sur Sade, sur ses penchants fascisants. Même j'ai eu quelqu'un ici qui est venu ici en me disant, ce qui m'ennuie chez Sade, c'est pas qu'il soit sadien, mais il est sadique.
D'accord.
Et avec la récupération, tu te débrouilles après. Hein.
Oui, non, mais
avec la récupération qu'a fait Pasolini.
Oui,
Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Ben, c'est justement ce que je n'aime pas dans le film de Pasolini, c'est ce mélange du poli et d'anachronisme, quoi. C'est surtout une vision anachronique. On peut pas accuser ça d'être fasciste au XVIIIe siècle. Ça n'a pas de sens, quoi. C'est un peu comme aujourd'hui le regard qui est posé sur un tas de gens dont on fout les statues à la Seine ou ailleurs parce qu'ils sont pas dans la norme bien pensante. Mmh. Et ça, c'est des regards anachroniques qui sont complètement insensés. Hein. Voilà ce que j'en pense. Donc, je ne réponds même pas à cette question qui, pour moi, n'existe pas.
Tu approuves ce qu'a fait Pasolini de Sade ou pas?
Écoute, le film, moi, je l'ai vu à sa sortie. J'avais été un peu énervé par ce mélange. Et puis, je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Déjà, ça tient. C'est un film qui tient. Et qui, bon, mis à part, effectivement, le parallèle entre le château de Siling et la République de Salo, qui est un peu concon, pour le dire clairement, et ouais. sans doute un peu fort mais comme terme, mais bon, sinon le reste, ça reste un film scandaleux, quoi. Et peut-être de plus en plus scandaleux.
Il y a cet univers que tu cites quelque part dans ton livre, de la merde, du oui. sang et de la mort.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Là, j'ai trouvé un portrait de toi, là, et après on passe au livre, promis.
Je t'en prie.
Alors, à peine hors du château de Siling, le duc de Blangis s'avance-t-il sur le pont-levis. Après, c'est toi qui interviens. Hein. C'est être faux, dur, impérieux, barbare, égoïste, également prodigue pour ses plaisirs et avare quand il s'agissait d'être utile, menteur, gourmand, ivrogne, poltron, sodomite, incestueux, meurtrier, incendiaire, voleur. Est-ce que c'est toi ou pas?
C'est en dessous de la vérité. C'est plus grave que ça chez moi. Il manque quelques éléments bien sentis. Joseph en témoigne. C'est pire que ça, hein, Joseph. Ça, c'est rien. C'est un petit joueur.
Donc, c'est un livre très agréable, qui est très léger, qui n'est pas agressif.
Tu veux parler de Florbel ?
Le tien de Florbel, qui n'est pas du tout agressif, après on va revenir, même quand tu règles des comptes.
Avec ma famille.
Avec ta chère maman.
Surtout ma mère. Oui.
Voilà. Donc tu es parti en voyage, dans ce 20e arrondissement, qui a beaucoup à voir avec Sade.
Oui, absolument. Surtout avec ce confinement qui m'a remis, comment dire, en cellule pendant donc la période à laquelle j'ai écrit ce bouquin, puisque j'étais, comme nous tous, enfermé du matin au soir. Il y avait une heure de sortie, je crois, possible. Donc je me suis retrouvé. Mais bon, comme je dis au début du livre, j'ai tout de suite été enfermé au château de Céline, c'est-à-dire en moi-même, en gros.
Mais le confinement ne te pèse pas dans ta...
Non, me pèse pas, parce que, bon, déjà, j'écris et je peins du soir au matin et du matin au soir, sans voir énormément de monde. Je me suis auto-confiné. Donc, à part aller chercher mon pain à heure fixe, c'est à peu près la gêne que j'ai ressentie lors du confinement, mais il ne m'a pas gêné outre mesure. Beaucoup de gens comme moi...
C'est très Jean Genet, ça. Hein Jean Genet, il est très content d'être en prison à un moment donné. Hein.
Je le comprends. C'est vachement bien, surtout quand on est soi-même le geôlier de sa propre prison. Ah. C'est encore mieux. C'est plus agréable quand même. La vraie prison, ça doit pas être terrible quand même. Mais bon, ça permet d'écrire, ouais. Ça permet d'écrire ou de peindre et de réfléchir, de se poser. Bon, Sade, il a pas vécu terriblement bien son emprisonnement. Hein. S'il avait eu une vie assez, il a écrit très tard, hein. Un peu comme moi d'ailleurs. J'ai aussi une vie agitée, pas dans la proportion que tu décrivais dans mon portrait magnifique là du duc de Blangis. Gourmand, oui, je retiens. Meurtrier, bien sûr. Assassin, sodomite, tout ça, c'est vrai. Mais sinon, bon, dès l'âge de 17 ans, je dis, je ne suis jamais sorti de cette prison. Et en plus, comme je le rappelle, je suis né à côté du zoo de Vincennes. Et le jour de la présentation où tu étais présent, d'ailleurs, je rappelais que le verbe grec zoomorphène, qui veut dire peindre d'après le vivant, c'est à peu près mon objectif quand je démarre ce livre, c'est-à-dire de faire mon autoportrait, mais avec la phrase là de Hans Wellmer que je retrouve, qui est de faire une recomposition d'un carnage qui est le mien, avec donc différents corps, ou corps victimaire et corps de bourreau.
Mais je veux dire que tu écris aussi sur Sade, parce que le quartier où tu habites...
Oui, en plus, j'avais presque oublié que mon atelier est situé là où la famille Sade avait une propriété, que le père de Sade a revendue pour couvrir ses dettes de jeu, entre autres, et quand Sade avait quelques années, alors on imagine Sade enfant, mais ça n'existe pas au XVIIIe siècle, il venait pas se balader avec son fils dans les herbes folles du 20e arrondissement, qui n'existait pas non plus. Ce 20e arrondissement aussi abritait les promenades solitaires de Jean-Jacques Rousseau. C'est là où il s'est fait renverser par un chien qui parle dans les rêveries, etc. C'était la campagne. Il y avait Fouquier-Tinville aussi, le grand guillotiniste.
Très sympathique,
très sympa. Qui avait une maison tout à côté de mon atelier aussi.
Très
c'est,
sympathique,
c'est un, mais c'est un endroit, il y a eu après les Apaches, au 19e, début 20e, Casque d'Or. C'est un endroit qui et la commune. Et c'est un endroit qui sent la mort, le sang et le crime.
Mais très doux. C'est
crime doux. Et Joseph habite le 20e aussi. Nous sommes tous nous sommes, toi, t'es pas loin, t'es dans le 11e.
Et Belmer aussi.
Ouais. C'est un arrondissement très attachant.
Donc, moi, je suis allé effectivement à ta signature. Il y avait beaucoup de monde, c'était bourré, j'ai remarqué.
Oui, oui, bourré comme des coins.
Et tu dis, c'est bon, puisque tu l'as dit, on va le répéter, hein, tu dis à un moment donné, c'est mon livre testament.
C'est parce que quelqu'un l'a écrit, il y a eu un paquet de critiques, et quelqu'un a soulevé donc ce détail en disant c'est peut-être son livre testamentaire. Pourquoi pas? J'ai l'ambition. Déjà, il y a deux livres qui vont sortir.
C'est très dangereux de dire ça. Parce
oui, ça serait bon. Ou alors, j'ai une espérance de vie très limitée, ce qui est possible aussi. Mm-hmm. Vu que je cumule les maladies dont je parle là-dedans, hein, je parle de mon corps et des maladies qui m'assaillent. Comme les guerriers du même nom en Afrique, les guerriers Maasai. Bon, et testamentaire, non, je dirais non. Mais bon, s'il a envie que ce soit mon dernier livre, parce qu'il a peut-être, il en a peut-être.
Et c'est un livre plein de vie.
C'est un livre plein de vie, voilà.
Et
de vie, VIE et VIT. Oui, les deux.
C'est ce que j'en ai tiré, moi.
Oui, bien sûr. Non, c'est un livre vivant et léger. Donc, champagne, c'est un livre champagne.
Par contre, on ne sera pas d'accord tous les deux sur la démarche.
Oui.
Sur la démarche. Donc, il n'est absolument pas agressif, ce livre. Tu dis que tu n'as rien à faire de tes géniteurs.
Oui, j'ai une histoire compliquée avec ma famille.
Une histoire compliquée. Mais tu trouves besoin d'écrire deux pages sur ta maman.
Oui.
Qui sont des pages pas très sympathiques, si tu as le passage, qui sont pas très sympathiques. Et je me demande pourquoi, dans ta démarche, tu as besoin de régler ce compte.
Alors, c'est parce que simplement, je me mets dans la peau de Justine, la victime. Hein, il y a deux héroïnes.
Il y a toujours le rapport avec Sad.
Voilà, toujours, voilà. Donc là, je me mets dans la peau de la victime, hein, et parfois, plus souvent de Juliette, mais là, donc, je suis Justine, et je parle un peu de mon enfance, qui n'a pas été rose, ni Rose Keller, puisque Rose Keller aussi est une héroïne que je côtoie très souvent. Rose Keller, tu sais, c'est la fille que Sad a emmenée dans une petite chambre à Arcueil, et il a commencé à lui fouetter un peu le postérieur. Elle s'est échappée, et ça a valu un procès à Sad et quelques ennuis. Ce qui est bon, c'est surtout sa belle-mère qui poursuivait Sad. Parce que ce que faisait Sad, c'est pas dire que c'était courant, que les mecs fouettaient tout le monde dans la rue, je sais pas, non. Mais au 18e siècle, quand on est surtout de son extraction sociale, c'est quand même un noble, de malmener les gens du peuple, ça porte pas conséquence, c'est malheureusement, hein, mais bon, mais comme la belle-mère, on soupçonne que la belle-mère était amoureuse de lui. Mmh. Et Sad, il épouse la fille de cette femme, et en plus, il couche avec l'autre fille. Alors là, donc, elle a craqué, parce que là, il se tape mes deux filles et pas moi, quoi, en gros. Donc, ça envenimait beaucoup les choses, plus il y a une histoire d'argent, tout ça. Bon, voilà. Donc, il a été, c'est elle qui le fait embastiller. Voilà. Mmh.
Mais je te disais, ce soir-là où on s'est vu, hein, qu'il reste grand seigneur jusqu'à la fin de ses jours, Sad, hein, parce que même lorsqu'il rejoint la section des Piques,
oui, oui.
Près de la Bastille, là, il ne supporte pas l'odeur des sans-culottes. Hein.
Tu m'as dit,
il ne supporte pas l'odeur des sans-culottes.
On a parlé.
Mais pour revenir à ce. Si tu le retrouves, bon, tu le retrouveras pendant la musique. Hein.
Ce
passage, tu diras quelques passages à ta charmante maman. Là. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser aux gens qui ont été baptisés.
Oui.
Et qui trouvent nécessaire et bon de renvoyer leur certificat de baptême au Vatican.
Ah oui ?
Comme une justification inutile, tu vois ce que je veux dire ?
D'accord.
Voilà. C'est-à-dire que c'est quand même un fardeau que tu traînes derrière toi.
J'ai longtemps traîné, hein. J'ai fait ce qu'on appelle une analyse même. Hein. J'ai été voir une docteur avec 3 E qui m'a mis sur le divan. Et bon, j'ai traîné longtemps. J'ai traîné dans les bars surtout. Réellement, en plus, j'ai traîné ça effectivement comme un boulet. Et ça fait plusieurs fois que j'en parle d'ailleurs, que je l'écris ça. Et là, je pense que c'est peut-être la dernière fois. parce que ça fait effectivement beaucoup. Mmh. Et bon, je trouvais que c'était le moment de ramener tous ces souvenirs. Et justement, donc, de profiter du personnage de Justine pour me glisser à nouveau dans mon enfance.
Et avant d'écouter un brin de Billy, je t'avais demandé, et si ta mère n'est plus là, mais si elle avait été là, est-ce que tu lui aurais fait lire ?
Oui, tu m'as posé la question. Je pense pas, non, j'en pense pas. Donc déjà, elle s'intéressait pas très peu à ce coup-ci. Elle s'intéressait un peu, mais bon, je pense qu'elle m'aurait pas lu. Et déjà, nous n'avions plus du tout de relation. Donc, mais j'aurais pu lui envoyer, oui, par pur esprit.
Oui. Tu sais, c'est ce que je dis, c'est ce qu'a fait Ferré quand il a publié Poète vos papiers, qui est pas un grand livre, mais il a fait ça. Il envoie ça. Son père doit être directeur des jeux à Montsé, des bourgeois Monaco. Catholiques à Monaco. Mmh. Et là, il lui répond, tu as déshonoré ta famille, ta mère et moi, ça m'est pleuré, quelque chose comme ça, tu vois.
Oui, bien sûr.
Voilà. On va poursuivre avec Fleur Belle aux éditions Timbal, et pour m'écouter un peu de Billy. Quand même. Tu es venu
je suis venu uniquement pour Billy, oui.
Oui, bien sûr, Jacques Coda dit des obscénités pour ne pas changer au 01 43 71 89
des précisions.
Oui, alors tu reprends une phrase, si tu me corriges, et c'est Léris ou pas, qui dit qu'il n'y a pas d'autobiographie, mais il y a des autoportraits.
Oui, c'est Léris.
C'est Léris.
C'est Léris.
Qu'est-ce que ça veut dire en gros?
Dans l'âge d'homme, je crois.
Ouais.
Surtout, ce que ça veut dire, c'est la route que j'ai choisie. L'autobiographie, oui, mais comme je suis également peintre, je préférais donc le terme d'autoportrait, en plus qui collait donc à ce verbe dont j'ai parlé.
Je me suis demandé si en disant ça, c'était pour la énième fois, pop, je te la fous dans la gueule celle-là, c'était pour nous faire le coup de la surfiguration. Pour le pouvoir le placer.
J'ai pas même pensé. Non,
c'est vrai.
Pourquoi l'autoportrait? Je trouve que l'autoportrait convient mieux parce que on parle de surtout c'est une figure quoi. C'est une figure de rhétorique et une figure au sens large du terme. Voilà.
J'ai quelqu'un qui nous écoute à chaque fois plein d'humour et qui un jour t'a écouté définir ou tenter de définir la surfiguration.
Oui.
Et tu expliques. C'est dessiné d'après quelque chose
qui existe déjà. Un déjà vu, oui.
Et la personne m'a dit, mais moi, quand j'ai commencé à dessiner, j'ai pris des cartes postales et j'ai reproduit la carte postale. Est-ce que c'est de la
Oui, bien sûr, il peut faire partie. Qui m'adresse sa cotisation. Alors, c'est 250 euros annuels. Je donnerai mon adresse hors antenne. Oui, bah c'est ça. Au départ, c'était ça. Au départ, c'était une blague de potache. Hein. C'était une soirée un peu arrosée. Et on s'est dit, oui, nous sommes à la fin du XXe siècle. Il n'y a plus de grands mouvements artistiques, le surréalisme, l'impressionnisme, etc. Plus d'isme. Pourtant, bon, je déteste les ismes. Mais bon, créons quelque chose pour rire. Et on va appeler ça la surfiguration et le surfiguratisme.
Joseph, c'est quoi le rapport de Bellemare avec le surréalisme? Réalisme, justement. C'est un satellite, il participe pas au mouvement.
Je pense que c'est un problème de personnage, d'homme, c'est-à-dire relationnel. Il a une personnalité très forte, et il est dans un groupe, peut-être déjà, il se sent étranger. Il est dans un groupe... pas bien compris, il veut pas s'imposer, et il y a la personnalité de Breton qui repousse, cathode, dessine. Et donc, quelque part, il prend des distances, il participe tout en ne s'investissant pas trop.
Mais il ne signe rien, il n'y a pas de signature. Oui. Il manie bien le français, Bellemare et elle ?
Ben oui, bien sûr. La preuve, c'est texte et tout.
D'accord.
Ah oui, oui.
Oui, c'est un grand écrivain aussi.
Oui,
en français.
Alors bien sûr, il s'est fait un peu aider par Nora ou par d'autres à un moment donné pour conclure certaines phrases, etc. Mais il écrit très bien pour un Allemand.
Même pour un Français.
Je trouve que c'est très très bon.
Il y en a qui sont pires. Donc tu te promènes avec ça, mais aussi avec Rimbaud une fois.
Oui, je les lis d'ailleurs tous les deux. Hein, je les mets dans le même bateau.
Dans le même bateau ivre, tu peux y aller.
D'accord. Ils sont assez liés. Il y a cette espèce de... je dirais de révolte, qui était la mienne quand j'avais 17 ans, quoi. On est là pour revenir aux 17 ans de Rimbaud, et sa fameuse phrase que je ne vais pas citer parce qu'elle est archi connue. Et effectivement, moi, quand j'avais cet âge-là, j'ai encore cet âge-là, j'étais dans
cette... Mais nous avons tous cet âge-là.
On a tous encore 17 ans, et j'étais dans l'insoumission, dans la révolte, dans l'enivrement, le dérèglement des sens, mais apparemment, je n'ai pas quitté cette demeure. Quoi.
Pour une fois, tu as eu hors antenne, je crois que c'était hors antenne, un éclair de lucidité. Tu avais dit qu'on avait mal compris cette phrase, le dérèglement des sens, car c'était le dérèglement du sens, c'est ça
exact.
Qu'est-ce
exact.
Que tu en penses? Oui, vas-y.
Bah, écoute, là, tu vois, je viens de mal comprendre à mon tour, puisque moi, j'ai appliqué jeune le dérèglement des sens. Hein. Comme on essayait de retrouver le passage où je... parle de tous les dérèglements que j'ai expérimentés justement quand j'étais lycéen, c'est-à-dire l'alcool, les drogues, le sexe. Et là, effectivement, je suis dans le dérèglement des sens. Mais on peut et on doit, je crois, entendre cette phrase comme le dérèglement du sens, ce que fait l'écriture de Rimbaud, qui dérègle le sens.
À plusieurs reprises, tu rameutes aussi quelqu'un qui a beaucoup fait au niveau du langage, c'est James Joyce.
Oui, lui aussi, il a déréglé le sens terriblement, jusqu'à cette expérience ultime de Finnegan's Wake. où c'est écrit. C'est un livre auquel je crois on essaye, quand on a l'ambition d'écrire, de se confronter. Mais c'est une montagne. C'est plus de la musique, c'est polyphonique, c'est plusieurs langues qui sont mélangées. Il voulait même que ça soit. Anonymé même, hein, il a fait appel à plusieurs. Il voulait même pas signer ce livre, tellement c'est la lettre qui l'emporte sur l'individu.
Je suppose que tu connais les lettres qui se sont écrites avec Nora.
Oui, oui, mon gros Mickey et Nora Péteuse.
Nora Péteuse, il y a un rapport au corps qui est magnifique là.
Oh, oui, bah, Joyce, c'est ça.
Hein, le rapport, il faut dire, c'est le rapport aussi à la merde. Hein, il y a un rapport à la merde. Mais à un moment donné, dans la matière, la destruction, il y a une très belle lettre. Où il lui demande de se masturber, elle est dans la cuisine, les mains pleines d'épluchures, et elle remonte sa jupe ou sa robe, je ne sais pas ce qu'elle a à l'époque, et elle s'acquitte.
Mais oui, elle était très, très amoureuse.
Très amoureuse. Et tu sais ce qu'il a dit, c'est qu'elle n'a pas pu lire une seule page.
Non, non, elle voulait que d'ailleurs, elle trouvait qu'il avait manqué sa. Il avait un peu été passé à côté de sa vraie carrière quand il était guitariste et pas écrivain. Elle voulait qu'il soit guitariste. Ouais. Parce qu'il chantait, il poussait la chansonnette un peu, comme souvent l'Irlandais après quelques verres de bière brune.
Et très méchamment, entre guillemets, c'est ce que c'est vrai ou pas, il a dit qu'elle n'avait pas été plus loin que la page de garde.
Oui, je pense que...
Mais t'en remarques, c'est à peu près normal aussi. Hein.
Oui.
Tu as lu Florbelle Tu l'as pas lu? Tu ne veux pas le lire? Tu ne lis pas les obsèques?
Il y a tellement de choses.
Tu n'as pas lu le livre de Jacques? D'accord.
Ah oui, je t'ai pas posé la question, c'est vrai.
C'est-à-dire, j'ai regardé.
D'accord.
Tu n'es pas rentré dedans comme. Non, rien, je ne continuerai pas la métaphore. Vous ne savez pas plus loin la métaphore.
D'accord. Donc, tu l'as illustré, ce livre?
Oui, j'ai fait des encres. Moi, je suis beaucoup plus doué que belle-mère, donc elles sont, je disais tout à l'heure à Joseph, belle-mère à côté de mes encres, hein, ça va pas loin. Il n'est pas d'accord. Je vois qu'il a des doutes. Oui, je l'ai illustré abondamment, d'ailleurs. Et j'ai continué à l'illustrer une fois, d'ailleurs. Je ne sais pas si on peut parler d'illustration. Ça fait partie un peu de l'écriture, les dessins qui sont à l'intérieur de ce livre, qui sont également des morceaux d'écriture, qui font avancer le récit. Et comme j'étais en train de le dire, j'ai continué à dessiner bien. Il y a beaucoup, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de dessins aujourd'hui de Florbelle qui ne sont pas dans le livre.
Il y a quelque chose qui est récurrent dans tes livres, non pas Caméra Gréco, pour lequel tu t'es fait un t-shirt magnifique.
Ah oui,
J'ai
Florbelle, j'aurais dû le mettre.
C'est le rapport bouffe et Eros.
Oui. La nourriture.
Oui, bien sûr.
Ah oui. Aussi, dans ça, il y a diverses plats et la bouffe est très importante. Tu as ça dans Casanova aussi. Hein. Tu as ça dans beaucoup de libertins, d'écrivains qui lient je trouve en plus que moi, la cuisine et la peinture aussi ont des choses en commun, ont des choses à voir ensemble. L'atelier du peintre et l'atelier du cuistot.
Le cuistot, oui.
Tu transformes dans la cuisine et tu transformes aussi en peinture.
Est-ce que tu as souvenance, c'est une parenthèse du film de Ferreri, La Grande Bouffe?
Oh là, plus que souvenance, je l'ai vu, revu.
Oui, alors dis-moi, j'y ai pensé. Dis-moi.
C'est un des films que j'adore revoir. Bah écoute, là aussi, c'est encore toute ma jeunesse. Ouais. C'est l'insolence à l'état pur. Ces gens qui se décident de suicider en mangeant outrageusement. Et tout ça dans une atmosphère érotique, torride, avec la fameuse Andrea Ferreol.
Magnifique.
Qui est magnifique.
Et tu trouves pas que ce film, moi au départ, je l'avais pas aimé. Et c'est plus le temps passe, plus je trouve qu'il est déterminant, ouais, par rapport à la société de consommation.
Oui, c'était déjà une critique de la société de consommation, hein, à l'époque.
Tu l'as vu, Joseph, La Grande Bouffe? Non.
Avec des acteurs qui sont en plus délicieux.
Magnifique, hein, oui.
La triplette, ouais, italienne.
Plus. Mais on est en plein dans ce monde-là. On est en plein dans ce monde-là. Eros, la bouffe, envers la morale, le Christ, etc.
En même temps, ça dépasse cette critique sociale. Ça va au-delà. C'est quelque chose qui est... C'est la force du film, d'ailleurs. Mmh. C'est un film métaphysique, quasiment, mmh, sur l'amour et la mort. Et oui, effectivement,
on est en plein dedans.
On est en plein dedans.
Oui, moi, je trouve que beaucoup, ça n'a rien à voir, et ça a tout à voir, beaucoup plus réussi qu'un Pasolini, tu vois.
Ben, y a pas ce, y a, c'est-à-dire que le discours, la critique sociale est plus subtile. Mmh, elle sûr. Est plus subtile. Pasolini, voilà. il y va, je trouvais lourdingue.
Moi, j'ai trouvé lourdingue.
Ben, salaud, il tape. En plein temps. Puis Pasolini, c'est un personnage curieux. Parce que c'est un type qui a défendu les flics en 68 contre les étudiants. Parce qu'il estimait que les flics étaient plus proches du peuple.
Oui, mais il dit une chose, parce qu'il dit une chose qu'il ne faut pas le répéter. Et moi, parce que moi, j'ai vécu en Italie beaucoup. C'était quoi les flics? C'était les pauvres mecs des campagnes qu'on venait chercher, à qui on foutait des matraques.
Absolument.
Et les étudiants, tu vois, de 68 heures, t'as vu comment ils sont tournés, c'était les bourges.
Bien sûr. Alors, non, c'est une vérité, ce qu'il dit.
Il n'empêche, il y a des discours contre l'avortement, etc.
Ah oui, il y a tout ça. Il y a des paradoxes, c'est le communiste qui croit en Dieu, quoi. Il y a des paradoxes très difficiles à gérer, oui, et surtout à entendre. Oui. Mais en même temps, ça se tient. C'est ce qui fait la force de Pasolini.
Joseph, si on veut se promener avec Bellemare, qu'est-ce qu'on peut lire? Parce que tu es venu avec des livres, là. Oui, qu'est-ce qu'on peut lire? Vas-y, je t'ai... Non, c'est... Tu veux pas nous le dire? Bon, bref. Attends, bouge pas, j'ai pas mes lunettes. Vas-y, pas mes lunettes.
Alors, ah oui, le livre de Pierre Doutre. D'accord. Qui est un très, très beau livre. Étienne Ruot m'en a parlé. Il m'a demandé si je l'avais lu. Je lui ai dit non, je ne l'ai pas lu. Il est très difficile à trouver, d'ailleurs, aujourd'hui. Bellemare, le principe de perversion. Je ne l'ai donc pas lu. Parce que Et Doutre a participé au catalogue de l'exposition à Beaubourg. Tu as vu?
Oui.
Il y a des textes de Doutre dans le catalogue. Mais ça va être très difficile. Comme conseil de lecture, le livre, tu peux le trouver d'occasion, mais assez cher.
Il y a le catalogue aussi de l'exposition à Beaubourg en 2006.
Oui, qui est aussi difficile à trouver.
Encore plus difficile à trouver,
d'oblique.
C'est son exposition.
Il y a un numéro d'oblique.
Oui, un numéro d'oblique.
Le numéro d'oblique, mais est-ce qu'il y a on peut le trouver? Je ne sais pas.
Oui.
Le catalogue au CNAC en. 71, 72, il y a une très belle exposition. Mais
il y a le livre de Quignard aussi qui est pas mal avec Cécile Reims.
Il y a le livre de Quignard.
Pascal Quignard.
Voilà, avec.
Avec Cécile Reims qui parle de.
Avec Cécile Reims, la gravure, voilà.
Tu connais Cécile Reims qui était la femme de moi, la compagne de celui qui a écrit La Ghana, dont j'oublie son nom.
Fred
II. Fred II, voilà. C'est également un graveur, Fred II, écrivain, oui, voilà. Et donc Cécile Reims était la graveuse de Bellemare une fois que Bellemare pouvait plus graver.
Tu connais l'histoire du manuscrit, je crois que c'est la Ghana, où il a écrit à je sais pas quoi, à une Rothschild ou à quelqu'un comme ça, en lui disant qu'il fallait qu'il continue son livre, il a besoin de pognon, il a reçu du pognon.
Ah oui, je ne savais pas. Ah ouais. C'est un très très bon livre, La Ghana.
Mais c'est Losfeld qui l'a publié. Hein.
C'est Losfeld, mais ça a été repris par André Dimanche après. Il y a eu plusieurs rééditions.
C'est le seul qui l'a publié.
C'est un livre qui a un succès monstre.
Il y a le livre de Sarah Alexandrian.
Oui.
Aussi.
Que tu connais, toi, bien.
J'ai connu Alexandrian.
Et puis, son bouquin, L'anatomie de l'image.
Et lui-même, et puis il y a les œuvres complètes de Bellemare qui viennent de paraître, là, il y a six mois, un an à peu près, hein,
ouais.
Qui sont réunies chez, comment s'appelle l'éditeur? J'ai complètement oublié, qui est un très bon éditeur, mais je perds la mémoire. Ouais. Mais donc, ça c'est trouvable, et c'est neuf,
oui,
hein, moi, ça vient de sortir. Et là, on voit le grand écrivain qu'il est. Hein. Ouais. C'est vraiment...
Et là, je viens d'apprendre qu'il y a un bouquin sur Unique Azur qui vient de sortir aussi. Donc, il y en a... Donc, tous les catalogues d'exposition.
Alexandrian, c'était une mémoire universelle, tu aimes ou tu n'aimes pas de ce qu'il a écrit. Mémoire universelle. Moi, j'ai préfacé aux belles lettres un livre, en dirant dans le sujet, rassure-toi, ne sont pas morts tous les sadiques.
D'accord.
Un type qui s'appelle Max Roussel. On ne sait pas trop ce qu'il sait, on ne sait pas où il n'a pas été un mec qui est parti avec Samaringen, avec ton copain Céline, on ne sait pas trop ce que c'est, et c'est complètement introuvable.
Ah oui.
Et à l'époque, j'avais lancé un SOS, le seul type qui a réussi à me trouver, c'était Alexandrian.
D'accord.
Tu vois, des esprits universels comme ça.
Et c'est quoi ce bouquin de Roussel là,
C'est Max Roussel. Tu peux le trouver aux belles lettres. C'est le festin des charognes. Le festin des charognes. Voilà.
Ouais.
Et j'ai vu que tu joues avec le mot charogne dans ton livre.
Oui, quartier charogne. Je ne suis pas le premier. Il y a un type qui écrit, qui est un ancien taulard, que j'ai rencontré d'ailleurs, qui habitait la rue des Maraîchers, enfant, qui parle de ce quartier. quartier donc de Charonne qui transforme en quartier charogneux. Et c'était pas triste, hein, la rue des Maraîchers, il y a combien, 50-60 ans, c'était pas triste du tout. T'as connu, toi, t'as habité le 20e tout de suite, de moins, dans ces années-là, les années 50-60.
En 68, rue Saint-Blaise.
Ah oui, donc t'étais là, oui. Donc t'as connu le 20e pur et dur.
Parce... après, donc.
Parce que là, c'est
devenu assez beau. Arabie depuis, ouais, 40 ans.
D'accord. Parce que c'est ça, c'est, on appelle ça beau. Gentrisé.
Boboisé. C'est boboisé, oui. Fouquier-Tinville est un petit gars de Ménilmontant.
C'est vrai.
Le dimanche, il vient reposer sa tête vénard dans le confort de ses cheveux, cultiver son jardin, comme la République le lui a fortement conseillé. Oui, Fouquier-Tinville possède une maison de plaisance dans le village de Charonne, Charogne, où je suis du verbe être, non être, à deux pas de mon atelier Koda Insad, aujourd'hui rue Saint-Blaise, dans le 20e. Beaucoup de sang ici-bas. Le 20e est rouge, sang des Apaches qui se battent pour maquer les filles de joie. Casque d'or a habité là. Sang versé de la commune, le vieux monde se tordit dans les convulsions de rage à la vue du drapeau rouge flottant sur l'hôtel de ville, Marx. Sans fleurs qui s'évanouissent avec Ho Chi Minh, un court temps établi, c'est le mot juste, juste le mot. À deux pas de mon Koda Insad, rue Galeron, et en sus la guillotine qui triomphe place du trône, place de la nation sous les fenêtres de Sade, interné à Picpus. Ceci est mon sang. Au 18e, le vin coule, au goulot, on flanc continu, on court à travers les vignes, rue des Vignoles, les vergers, rue des Haies, les prairies, rue des Prairies, on boit dans les courtilles un petit vin violet aigrelet qu'on appelle guinguet, tiré des vignes du clos guinguet. Guinguet, c'est aussi danser, faire la fête, tourner et retourner, la vie, ivresse, tourbillon, joie folle, amour multiple, le cul dans l'herbe, la tête au soleil. La guinguette la plus proche de mon atelier a pour enseigne au bonhomme qui chie.
Ce qui est vrai.
Ça existe encore ?
Oui, non. C'est la langue de la rue Pelleport et de la rue de Bagnolet. Et cabaret, donc, qui a disparu, comme tous les cabarets ont disparu. Mmh. C'est des cabarets qui... L'avantage, c'est que c'était hors Paris, donc le vin n'était pas, comment dire, taxé. Mmh. Donc les gens venaient s'enivrer pour pas cher.
On parlait de la gentrisation, ça se dit, je ne sais pas, ou des bobotisations.
Oui,
il y a tout près de chez toi, je ne vais pas dire où tu habites, parce que tu vas avoir des hordes de groupies ce soir qui vont venir sous ta fenêtre. Tu avais la flèche d'or qui était là, la flèche d'or, qui a été quelque chose pour faire du rock'n'roll, etc. Il y a eu un restaurant qui s'est installé, et... il y a eu là maintenant, c'est des choses de soupe populaire.
Oui, c'est un resto où j'ai déjeuné deux, trois fois. C'est un resto associatif maintenant où on ne paye pas, on donne ce que l'on peut donner. Voilà, oui, c'est ça. Et il y a du monde, hein, y a du monde.
Mais ça veut dire aussi qu'il y a une évolution de la société, c'est ça que je veux dire.
Bien sûr.
Hein? Bien sûr. Et si tu visualises bien comment c'est construit, tu as ce pont et des gens avaient construit un théâtre. En dessous de la voie ferrée.
Ouais.
Et là, il y avait une scène, c'était très bien foutu. Et ils avaient joué, alors on est en plein dedans, rassure-toi, une pièce du fils Burroughs, qui D'accord. était aussi déjanté que son père, tu vois, un junkie de première. Et pour te dire à quel point le temps peut changer, c'était complet. Les gens venaient. Il y a une vingtaine d'années, toi.
Maintenant, ça s'appelle populaire. Il y a la queue, je sais pas si tu as vu, il y a la queue. Il y a une journée dans la semaine où on distribue de la nourriture. Il y a 200 personnes qui attendent le long de la rue de Bagnolet avec des sacs, des cabas et tout le cirque. C'est assez bon. Et puis tout autour, effectivement, il y a un tas de boutiques bio, il y a des agences immobilières, il y a le 20e qui change avec, mais il y a encore un mélange, si j'ose dire. Il y a les pauvres et les moins pauvres.
Non, j'en parlais pour finir l'histoire de ton livre, là. Moi, je suis très sensible à cet endroit-là, parce que tu sais que j'y vais, et c'est très tendre. On voit qu'il y a une histoire d'amour, et c'est pas gratuit, entre ce bout de bitume, là, il y a l'église, il y a ce cimetière, il y a une histoire d'amour.
Oui, absolument.
Non ?
Oui, je suis tombé amoureux de ce quartier que je ne connaissais pas.
Je suis très jaloux, tu sais. J'ai un amour fou pour l'endroit.
Rien. J'étais, on s'est croisés il y a quelques temps, tu te souviens, sur la place de la Contrescarpe. T'as vu ce que c'est devenu.
On a fui tous les deux.
C'est devenu une horreur absolue.
On avait fui ensemble, je me souviens.
Et donc, je suis tombé amoureux, moi, de ce quartier. Je l'habite que depuis 12-13 ans. Et je retrouve un vrai quartier, quoi, voilà.
Alors, Joseph Nazarzewski. Alors, il y a des poèmes de Roger Mathieu, il faut le dire aussi. Il y a des poèmes de Roger Mathieu, c'est marqué là. Postface de Jacques Coda et Étienne Ruot. Hein, Anse Belle-Mère, je rappelle les dates pour ceux qui m'avaient demandé la date, 1902-1975. Hein, et Unica, elle meurt 5 ans auparavant, en 69.
70.
70, voilà. Et on trouve ça, collection Bleu Turquin, dirigée malheureusement par Jacques Coda, aux éditions Douro.
Oui, on fait ce qu'on peut.
Et ben, Fleur Belle, hein, Timbad, c'est un roman si on veut, hein. Jacques Coda, Fleur Belle, et voilà, édition de Timbad, moi je vous le conseille, c'est très agréable à lire, et je crois que c'est pas du tout agressif.
Merci.
C'est quelqu'un qui a noté ça lorsqu'on s'est vu, c'est très doux, une sorte de promenade.
On pourrait s'attendre avec ça des choses émouvantables, voilà. Et non.
Voilà,
non,
c'est pas du tout le cas.
Non, c'est tendre, voilà. C'est une carte du tendre.
Messieurs, c'était un plaisir de vous avoir.
Pareillement.
Et je voudrais que vous remerciez Monique en cabine. Et voilà, vous y envoyez des baisers, c'est la gloire.
Baisers, Monique. Bravo, bravissimo.
C'est la gloire, voilà.
Merci,
voilà.
Merci.
Never had nothing, no one to care. That's why I seem to have more than my share. He's funny that way. When I hurt his feelings once in a while, his only answer is one little smile. I've got that man crazy for me. He's funny that way. I can see no other way.
Pour le voleur que tu recouvres de ton chandail tendre et rouquin, pour les portes que tu lui ouvres sur la tanière des Rupins, pour le condamné que tu veilles à l'abbaye du Mont-en-l'Air, pour le rhum que tu lui conseilles et le mégot que tu lui sers. Thank you, Satan. Les étoiles que tu sèmes dans le remords des assassins, et pour ce cœur qui bat quand même dans la poitrine des putains, pour les idées que tu maquilles dans la tête des citoyens, pour la prise de la Bastille, même si ça ne sert à rien. Satan. Pour le prêtre qui s'exaspère à retrouver le doux agneau, pour le pinard élémentaire qu'il prend pour du château Margaux, pour l'anarchiste à qui tu donnes les deux couleurs de ton pays, le rouge pour mettre à Barcelone, le noir pour mourir à Paris. Thank you, Satan. La sépulture anonyme que tu fis à Monsieur Mozart, sans croix ni rien, sauf pour la frime, un chien croque-mort du hasard, pour les poètes que tu glisses au chevet des adolescents, quand poussent dans l'ombre complice des fleurs du mal de 17 ans. Thank you, Satan. Pour le péché que tu fais naître au sein des plus raides vertus, et pour l'ennui qui va paraître au coin des lits où tu n'es plus, pour les ballots que tu fais paître dans le pré comme des moutons, pour ton honneur à ne paraître jamais à la télévision. Thank you, Satan. Pour tout cela et plus encore, pour la solitude des rois, le rire des têtes de mort, le moyen de tourner la loi, et qu'on ne me fasse point taire, et que je chante pour ton bien dans ce monde où les muselières ne sont pas faites pour les chiens. Thank you, Satan.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Eh bien, après Onde de choc et avant Trou noir, juste après 5 ou 7 ans, un petit peu d'annonce. Nicolas ?
Oui, bonjour à toutes et tous. Quelques infos sur notre librairie fédérale, la librairie Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement à Paris. Déjà pour vous rappeler que pour tous vos bons et beaux cadeaux de Noël, eh bien la librairie regorge de d'excellentes publications pour tous, avec des images, sans images, des textes drôles, d'autres moins. Mais voilà, il y a plein de belles idées à aller trouver là-bas. Donc n'hésitez pas. Vous en pourrez en profiter aussi, et là c'est absolument gratuit, pour regarder l'exposition qui se tient depuis le début du mois de décembre jusqu'à la fin, jusqu'au 30 décembre. Une exposition dans les sillons de Gaston Couté, et c'est l'exposition des planches originales de la BD de Jean-Pierre Joblin. Pour ceux qui ont pu y assister, il était en dédicace le dimanche 10 décembre à la librairie. Donc voilà, les planches originales de sa BD sont exposées sur les murs de la librairie Publico. Et puis une animation avant les nuits de la dinde qui vont suivre le 24-25. Avant cela, sera le mercredi 20 décembre et on vous propose, c'est le ciné-club du groupe Commune de Paris qui vous propose une projection à 20h, mercredi 20 décembre, un film qui s'appelle Omerta de Raphaël Bruyas. C'est une fiction qui dure précisément 50 minutes. En quelques mots, le résumé de ce film, l'action se passe au début du XXe siècle dans un hôpital religieux. Un groupe de jeunes internes en médecine fait une découverte anatomique qui pourrait bien changer l'ordre du monde. Dans leur projet révolutionnaire, ils convoqueront l'aide de Voltairine de Clercq en pleine réflexion sur l'action directe. Voilà, c'est donc le film Omerta de Raphaël Bruyas qui vous est proposé ce mercredi 20 décembre à 20h à la librairie Publico. Bonne soirée, à bientôt.
Et encore un tout petit peu de musique, nous retrouvons dans quelques minutes pour Trou Noir.
Hasta conquistar la verdadera independencia, por la que ya he muerto más de una vez, inútilmente. De justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar, esa ola ya no parará más. Esa ola irá creciendo cada día que pase.
Bâtis les murs pour qu'on ait plus peur de rien.
N'en passera.
Malheur à qui voudrait sortir du droit chemin.
N'en passera.
Ils nous ont fait croire qu'on était heureux. Pas de révolte ici, rasseyez-vous. Endormis, ils nous ont bandé les yeux. Faites-nous confiance, suivez-nous. Les routes que nous empruntons chaque jour leur appartiennent. Leurs grandes paroles, leurs beaux discours, douces sirènes. Ce royaume d'aveugles et de sourds, notre prison de verre. Et malheur à qui voudrait au grand jour briser ses chaînes. Nos dictateurs ont tracé notre chemin. Ils ont balisé la route pour notre bien. Bâtis des murs pour qu'on ait plus peur de rien.
N'en passera.
Malheur à qui voudrait sortir du droit chemin.
N'en passera.
Ils avaient pris le contrôle sur nos vies, sur nos âmes. Ils avaient brûlé nos écrits, éteint notre flamme. Hold up mental, sans scrupules, ils se sont servis. Quand nous n'étions que des moutons endormis, asservis. Ils nous ont tout pris, ils nous ont tout volé. Nos soleils, nos lunes, nos printemps, notre humanité. Nos rêves d'un autre monde, vite partis en fumée. Pour eux, nous n'étions pas des rebelles, juste une bande de fumiers. La peur régnait sur nos villes, jusque dans nos campagnes. Leurs drapeaux sur le plus haut sommet de la plus haute montagne. Ils avaient gravé leur empreinte indélébile. Dans ce monde futile débile, nous n'étions que des indociles. Affamés de liberté, nous sommes sortis du rang. Nous avons marché usant nos semelles des semaines durant. Nous avons quitté leur chemin, nous nous sommes évadés. On a pris la tangente, nous éloignant des sentiers balisés. Nous sommes passés de l'autre côté de leur mur, de l'autre côté de leur monde, de l'autre côté de leur parure.
L'amour et la soif de justice pour seule armure. Ils se moquaient de nos idéaux, bons à jeter aux ordures. Notre refuge, pas un palace trois étoiles, juste une forêt sauvage où les branches craquaient sous nos pieds sales. Pas de forteresse, pas de château imprenable, juste une maison sans poil, y porte à la portée des étoiles. Leurs règles, leur mode de vie, de pensée, leur jeu de rôle, nous nous en sommes affranchis, on a pris notre envol. Nos amis nous demandaient de revenir à la raison, de rentrer au bercail, de revenir à la maison. Pourquoi tant de révoltes, tant de rébellions? Ils préféraient de loin jouer à qui veut gagner des millions. Ils n'ont pas compris qu'à la table des grands de ce monde, il n'y aura jamais, au grand jamais, à manger pour tout le monde. Si puissant à les combattre, on s'y casserait les dents. Mais la patience est dans l'histoire aussi, connaît ses tournants. Tel un virus, notre folie fera contagion. On sera des centaines de milliers, des millions. C'est écrit, ils ne pourront rien y changer. C'est écrit, et quand nos rois sont humiliés, ils voudront mater la rébellion vaille que vaille. Ils viendront sur nos terres pour en faire leur champ de bataille. C'est bien connu, les colons n'aiment pas les colombes. Ils enverront leur faux consciemment creuser notre tombe. S'il faut prendre les armes, on saura se défendre. Pacifiste, mais pas assez fou pour se laisser confondre. La victoire, je la vois, je la vis, je l'envisage. J'en vis ce moment où les sourires fleuriront sur nos visages. Déjà j'entends crier l'armada des rebelles dans l'âme. Nos dictateurs ont tracé notre chemin. Ils ont balisé la route pour notre bien. Bâti des murs pour qu'on ait plus peur de rien. Malheur à qui voudrait sortir de droit chemin. Nos dictateurs ont tracé notre chemin. Ils ont balisé la route pour notre bien. Bâti des murs.
Ça sent mauvais autour de mon usine. Je conteste. Je dis non. L'expert n'a rien senti, lui. Alors ils ont dit qu'il avait de la sinusite.
Oh, quelle mauvaise foi.
Ça n'a pas de nom. Ah, je les retiens, mes voisins. Quand je pense à leur HLM, où il y a toujours quelqu'un qui a un chou-fleur à faire cuire. Non, ils veulent m'emmerder, c'est tout. Ces gens-là sont tous les mêmes. J'ai réussi. Alors ils peuvent pas me sentir, c'est tout. Ils peuvent pas me sentir. Tenez, j'habite avenue Mozart, premier étage au-dessus d'un fleuriste. Il y a des jours où ça sent très fort le mimosa.
Parce que j'en fais un plat, moi. Est-ce que j'en fais des pétitions au ministre? Mais non, je prends la voiture. Je vais faire un tour au bois.
La semaine dernière, pour faire un test, j'y suis allé à l'usine. Je suis resté devant la porte un bon quart d'heure. Aucun malaise, peut-être un léger mal de tête, mais quoi, avec deux aspirines, en voilà. En douceur. Mais rien n'arrête la calomnie. Du coup, mes ouvriers décrètent qu'ils ne veulent plus mettre leur...
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité. La radio de la Fédération anarchiste.
Donc après la voix charmeuse de Monique, Serge au micro, une pensée émue pour Nicolas qui travaille, fait qu'il n'a pas pu être avec nous, mais ça, le sujet l'intéresse, comme tous d'ailleurs les sujets qu'on traite dans Trenoir. Donc aujourd'hui, nous avons comme invité Anthony Laurent, qu'on a déjà reçu à plusieurs occasions, qui en plus nous a fait connaître un certain nombre d'autres invités. Voilà. Donc, avant de lui passer la parole pour qu'il nous parle un petit peu justement de sciences critiques qu'il anime depuis un certain temps, avec son itinéraire personnel, peut-être un peu avant. Et sciences critiques depuis une petite année, peut-être, je ne sais plus, novembre de l'année dernière, il me semble-t-il, de mémoire, a sorti au-delà de tous les articles qu'on peut lire sur le site. A eu la bonne idée de sortir de petites brochures, je ne sais pas comment tu appellerais ça, toi.
Des livres, on appelle ça des livrets,
oui. Oui, livrets, à la voix livrets, qui sont très bien présentés, voilà, et qui sont en fait le reflet d'un certain nombre de textes, en l'occurrence jusqu'à présent. Il y en a eu 3 qui ont été publiés, donc on va en parler pendant l'émission. Voilà, et je pense que c'est une très bonne idée, et on voulait absolument les faire connaître, et puis encourager les auditeurs à les lire, sachant qu'ils sont après libres. Enfin, je pense que ces détails, on va en parler un petit peu plus. Voilà, avant de donner la parole, je vais donner une phrase de présentation rapide que je n'ai pas inventée, hein, de science critique, qui est faite, alors je ne sais pas si j'ai lu là ou si j'ai lu sur le site. Alors, cultiver, aiguiser son sens critique, interroger, questionner les évidences, réfléchir, penser contre l'ordre des sciences, entre guillemets. Science critique vous invite à redécouvrir autrement les sciences et à vous emparer des enjeux éminemment politiques qu'elles soulèvent. Voilà, c'est une des présentations possibles, mais je pense que tu vas développer un peu plus. Donc, Anthony, ben déjà, merci d'être venu. Et puis, peut-être rappeler rapidement ton itinéraire, hein, parce que c'est quand même un peu, j'ai l'impression que tu n'étais pas le seul, mais tu es quand même un de ceux qui a vraiment poussé à aller en place de centre critique. Donc, si tu pouvais nous parler un petit peu de ce moment-là, et puis un peu l'itinéraire rapidement, ce qui expliquera un petit peu le contenu des brochures qu'on verra. Enfin, des livrets, excuse-moi, qu'on va voir par la suite.
Oui. Voilà. Et bien, déjà, merci à vous pour votre invitation, Serge et Monique. Donc, en fait, on a l'habitude de présenter Science Critique comme un site d'information et de réflexion critique participative sur les sciences. Voilà, c'est une façon de présenter en 3 mots le site Science Critique qui est depuis ses débuts, donc ça a été créé en février 2015, et qui est depuis ses débuts un site internet d'information, déjà pour la raison assez bête, mais assez bassement matérielle que créer un site internet coûte pas beaucoup d'argent, à la différence de créer des fanzines ou des magazines comme il en existe aujourd'hui, bien sûr. Mais voilà, pour démarrer un média, on a commencé en ligne. À ce jour, on a à peu près 150 textes qui ont été publiés. Les textes sont des tribunes libres d'auteurs extérieurs qu'on invite à développer des idées sur justement les sciences, les développements technoscientifiques.